Une image prise sur le vif ou même volée, une image qui circule dans les médias, une image par exemple d'attentat sur le papier, personne ne peut la contester sauf les saints Thomas. Vous vous souvenez de saint Thomas? Dans les évangiles, les apôtres qui ont vu le Christ ressuscité lui annoncent la bonne nouvelle, mais il leur répond « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et si je ne mets pas la main sur son côté, je ne croirai pas. » La prudence de saint Thomas a ceci d'intéressant qu'elle doute même de l'image. Non seulement il ne croit que ce qu'il voit, mais il a besoin d'être là, de toucher, de témoigner physiquement de la vérité. Rien ne peut le convaincre, pas même le témoignage de ses amis. Et est-ce qu'on n'a pas tous quelque chose de saint Thomas aujourd'hui, à douter de la perspective, de l'angle ou de la mise en scène de telle ou telle image d'actualité, à remettre en question son origine et les conditions de sa diffusion, à refuser de voir ce qu'on nous montre parce qu'on sait trop bien que tout relève possiblement de la manipulation. Et quand les Christs de fortune nous disent, comme à saint Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, on leur répond fake news ou Fox News, bienvenue dans l'ère de la post-vérité, personne ne peut échapper aux images manipulées.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un maître de l'image. Cela en fait-il pour autant un maître de la manipulation? On lui doit quelques-uns de nos plus grands frissons de cinéma, de Phantom of the Paradise au Dahlia Noir, en passant par Obsession, Carrie, Scarface ou Mission Impossible. La Cinémathèque française lui consacre une rétrospective jusqu'au 4 juillet, mais c'est pour un livre que je le reçois aussi ce matin. Les serpents sont-ils nécessaires? Un thriller politique aux allures de roman noir sur les coulisses du pouvoir, rédigé à quatre mains avec Susan Lehman et traduit par Jean Hesch. Bonjour, Brian De Palma.
Good morning.
Merci beaucoup d'être là. Dans quelle mesure peut-on échapper, pour vous, à la manipulation des images?
Why would we want to escape them?
Pourquoi est-ce qu'on voudrait y échapper?
Parce qu'elles sont partout, aujourd'hui.
Close our eyes and use earplugs.
Fermez vos yeux et utilisez des boules-quies.
Pourquoi je vous pose la question? Parce que dans votre livre, Les serpents sont-ils nécessaires? Il y a cette jeune documentariste, notamment, qui suit un sénateur, caméra à la main, pour réaliser un film sur sa campagne. Son but, c'est de montrer le vrai sénateur, le vrai. Choisir d'écrire un roman sur le rôle et le pouvoir des images en politique, ça a forcément un sens aujourd'hui, et dans l'Amérique d'aujourd'hui, plus précisément.
Well, but it's all propaganda.
Mais c'est de la propagande.
We have, you know, Fox News, which is.
On a Fox News, une chaîne de télévision.
Right-wing propaganda.
Qui est une chaîne de propagande de droite.
The fourth estate.
Et qui prend le quatrième pouvoir et qui essaye de répondre à toutes les questions posées par notre président, et il accuse les médias d'être de répandre des bobards, des fake news. Et quand il n'aime pas quelque chose qui est dit de lui, il tente de critiquer les journalistes, ce qui le met dans une situation extrêmement difficile. Et en fait, c'est bon pour sa base électorale. Et ce qui place donc effectivement les reporters dans une situation extrêmement difficile.
On parle d'une ère de post-vérité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette expression?
Well, you know, there was this whole idea of alternate. What is it called?
Il y avait toute cette idée de
les faits alternatifs.
Oui, des faits alternatifs.
Basically bullshit.
Mais c'est de la merde, quoi.
It's lies.
C'est des mensonges, tout simplement. Et les journalistes doivent tenter de corriger tous ces mensonges. Et quand on a un président qui ment sans cesse, c'est une situation très inhabituelle, dont on n'a jamais eu l'expérience précédemment.
Alors quelle vérité est-ce que le roman permet d'exprimer, permet de dire, Brian De Palma?
Well, in a novel, we try to tell the
Dans
true story.
Un roman, on essaie de raconter la véritable
and
histoire et aussi exposer les mettre à jour les mensonges qui ont été mis en avant par les personnages.
Le cinéma a les mêmes vertus?
No, well, you know, there's a famous quote about from Godard that says.
Non, vous savez, il y a une phrase célèbre de Godard.
Cinema's truth 24 times a second.
Qui dit que le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde. Et non, en fait, non. La vérité, c'est qu'on ment 24 fois par seconde. Parce qu'on manipule les images. Et on a la possibilité de créer des choses, de faire des choses. Et parce que ce sont des photogrammes, les gens pensent que c'est la vérité. Et ça nous fait tomber dans ces guerres stupides dans lesquelles on tombe. Voilà, on a quitté le Vietnam pour ne pas montrer les photos. Et moi, quand j'ai fait un film sur les atrocités qui sont produites là-bas, moi, je me suis posé des questions, mais où sont les photos, où sont les images de cette guerre? Et quand j'ai montré les photos et les images qui ont été filmées par les gens et qui n'étaient vues que sur l'Internet, eh bien, le film que j'avais fait a été complètement censuré. Il a fallu que je floute les visages. Et moi, franchement, je ne me suis jamais remis d'avoir été censuré de la manière que j'ai été censuré. On ne voit pas, par exemple, aujourd'hui, les images de l'Afghanistan. On ne voit pas les images d'Irak. Et c'est tellement évident qu'on est en train d'effacer et de supprimer la vérité.
OK. This country, you got to make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Antonio Montana, Scarface. For one brief moment, the world was his.
I grew up in a tough neighborhood. Sometimes a reputation follows you.
Robert De Niro is Al Capone.
Les Incorruptibles.
That eerie sensation that you've seen a stranger before. Obsession.
How did she die?
I killed her.
Phantom of the Paradox.
There really is the Phantom.
It's Carrie!
If you have a taste for terror, you have a date with Carrie.
Je m'appelle Peter Fallon. Je suis l'homme du jour, la coqueluche de New York.
Simple game. Is this serious? Destruct in 5 seconds.
Okay, we're ready to light this candle.
Let's go to Mars.
Il se trouve, Brian De Palma, que votre cinéma a su produire des images qui sont restées gravées dans notre rétine, dans notre mémoire. Je pense tout de suite, par exemple, pour moi, à la scène de bal dans Carrie, dont je retiens sans doute pour toujours ce corps inondé de sang et les yeux bleus de Sissy Spacek révulsés, image iconique. Et je me pose la question, qu'est-ce que c'est pour vous une bonne image?
Eh bien, on a une idée et on essaye de l'exprimer, cette idée, de façon aussi dramatique qu'on peut le faire de façon visuelle. Carrie, pleine de sang, ça vient du livre de livre original. Mais quand j'ai filmé, le studio est venu me voir et m'ont dit
«
Mais c'est horrible. C'est du sang, il y a du sang partout sur cette fille. Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose ?» Et j'ai dit « Quoi ?
Vous
pouvez lui mettre des confettis sur le corps ? Est-ce que ça fonctionnerait ? Des confettis bleus ?» Eh bien, le directeur du studio a reculé. Et quand on a fait la scène, il y avait le mari de Sissy qui a versé le sang sur elle. C'est lui qui a préparé la solution sanguine. Il était directeur artistique sur le film. Il a pris une échelle, il est monté, et puis il a versé le sang sur sa tête.
Vous, Brian De Palma, dans votre cinéma, si vous deviez en garder une d'image, ce serait laquelle?
Eh
bien, je pense que ce serait John Travolta à la fin de Blowout disant, voilà, c'est un bon cri.
Because it's so touching.
Parce que c'est tellement émouvant.
The story has broken this man.
Cette histoire a brisé cet homme.
Je vous pose la question, Brian De Palma, parce qu'on vit dans un monde saturé d'images aujourd'hui. Votre livre, d'ailleurs, s'en fait le témoin. Dans ce contexte, comment faire pour que l'image cinématographique garde sa force et garde sa pertinence ?
Well, that's becoming more and more difficult
because ça devient de plus en plus difficile.
The kind of images you see on the big screen are
les images que l'on voit sur grand écran sont des dinosaures et des personnages de bande dessinée.
And it's difficult to get financed,
et il est difficile de trouver des budgets pour des sujets sérieux qui se passeraient sur grand écran. La plupart de ceux-là sont passés vers Netflix ou vers Amazon. Mais moi, je fais des films qui doivent être vus sur grand écran. Et ça devient de plus en plus difficile, parce que c'est difficile de se faire budgéter, de se faire financer.
Quel avenir est-ce que vous voyez au cinéma, vous ?
Ça dépend ce qu'on veut dire par cinéma. Si c'est tout ce qu'on voit sur Netflix, est-ce que c'est du cinéma ? Il y a des images. Elles sont petites, ces images. Et elles racontent des histoires très romanesques, en série. C'est un nouveau format. Parce que c'est comme dans l'ancien système des studios. Tous les acteurs sont sous contrat, des contrats à long terme. Les scénaristes sont les rois parce que c'est eux qui écrivent l'histoire. Les réalisateurs, ils viennent pour tendre les câbles, et puis c'est tout. Et puis on ne peut pas faire la différence entre un réalisateur et un autre. Et ce n'est pas un endroit où j'aimerais être, moi.
Rassurez-moi, il y a quand même une place encore aujourd'hui pour le cinéma, le grand écran.
Oui, mais ça devient de plus en plus difficile. Parce que c'est cher, ces grands films.
Pourtant,
il y a quelque chose comme Le Revenant, c'est un film original qui a eu beaucoup de succès, mais c'est l'exception plutôt que la règle.
The Revenant, avec Leonardo DiCaprio, on s'en souvient. Celle qui voit dans l'avenir, Brian, vous la connaissez peut-être, c'est la culture et son actualité, diseuse de bonne aventure, tarot, boule de cristal et mare de café. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 31 mai ? Eux aussi, on le sent, Seine-Saint-Denis style, figurez-vous, les plus grands orchestres internationaux sont attendus à la 50e édition du Festival de Saint-Denis, rendez-vous incontournable du classique au printemps. Cette année, la basilique va vibrer au rythme des requiems de Berlioz et de Fauré, du concerto pour violon de Beethoven ou des cantates de Bach, dirigées notamment par Mikko Frank et Emmanuel Krivine à la tête des orchestres de Radio France. Et ça, c'est de la bombe, bébé. Rends les œuvres, Manu, le Bénin réclame à la France la restitution des trésors de son patrimoine, notamment trois statues totems exposées au Quai Branly, rapportées en 1892. On estime que 90% des chefs-d'œuvre du continent africain ont été dispersés dans le monde pendant la colonisation. Entre 4500 et 6000 d'entre eux seraient ainsi sur le territoire français. Pour la première fois, Emmanuel Macron s'est engagé en novembre dernier à restituer le patrimoine africain à l'Afrique. Et ça, c'est chic. Lamar et la manière, le rappeur phénomène Kendrick Lamar a récupéré hier son prix Pulitzer, reçu en avril dernier dans la catégorie musique pour son album Damn. C'est la première fois dans l'histoire que la prestigieuse récompense américaine revient à un artiste hip-hop. C'est un honneur, a déclaré Lamar. J'ai écrit toute ma vie pour ce genre de reconnaissance, c'est beau, avant une standing ovation de circonstance. 1 million de livres collectés, c'est l'objectif que s'est fixé Bibliothèques sans frontières en partenariat avec la FNAC. L'idée, donner une seconde vie aux ouvrages et approvisionner les bibliothèques partenaires de l'association en France et à l'étranger. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'aller déposer ses bouquins dans l'une des 160 FNAC de l'Hexagone. L'année dernière, près de 740 000 livres ont été rassemblés et acheminés. On compte sur vous, comme disait l'autre. Brian De Palma, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour la sortie de son livre « Les serpents sont-ils nécessaires ?» Ce qui fait de cette année 2018 une année doublement importante pour vous, celle d'une première fois avec ce premier roman et celle, comment l'oublier, du 35e anniversaire de Scarface qu'un certain type d'invité de cette émission cite au moins une fois par semaine. Je me demande comment vous expliquez que ce film qui rejouait le film de Howard Hawks soit devenu une telle référence, ait ainsi marqué une époque, à savoir les années 80.
Les choses qui survivent au temps, à travers des générations, le hip-hop, le retour du hip-hop en lien avec Scarface. On ne peut rien prédire. Et Scarface est sorti au milieu de controverses énormes et ça a survécu parce que ça raconte vraiment le pouvoir et la corruption du pouvoir partout, tout le temps. Et ça lie une génération à l'autre. Et le scénario exceptionnel d'Oliver Stone, le jeu extraordinaire d'Al Pacino. Je suis toujours émerveillé quand je le vois tout le temps à la télé. Et je me dis, mais mon Dieu, ces performances sont incroyables.
C'est intéressant que vous parliez d'émerveillement, parce que pour moi, le classique, c'est aussi ce qui produit du rêve dans l'œil, dans le corps, dans l'esprit du spectateur. Et Scarface, quelque part, c'est un film sur le rêve de réussite, de grandeur et de pouvoir.
Yes, very much so.
Exactement, oui.
I've had that theme in my movies from Phantom of the
Paradise. Ce thème est dans mes films depuis Phantom du Paradis, Phantom of Paradise.
Even Bonfire of the Vanities, where you deal with.
Et même sur le bûcher des vanités, sur la corruption du pouvoir. C'est ça le fil rouge dans mes films.
Fascinated by.
J'ai toujours été fasciné par quelqu'un qui devient extrêmement puissant, que ce soit par exemple l'empire Playboy ou Disney World, qui crée des mondes selon ce que vous voulez qu'ils soient. Donc on crée Disneyland, on crée le château de Playboy. Moi je suis allé au château Playboy au milieu de la journée avec des journalistes, et je me suis demandé pourquoi il n'y avait personne. Eh bien, ils m'ont dit, mais Hugh Hefner, il se réveille à minuit, et c'est à ce moment-là que les choses commencent à bouger ici. Voilà,
et
il faut toujours savoir à quel moment le soleil se lève dans tel ou tel environnement donné.
Évidemment, il est question de rêve et de pouvoir. Dans votre livre, Les Serpents sont-ils nécessaires, Brian De Palma? Je me demande, qu'est-ce qui fait pour vous un bon personnage de roman et de cinéma d'ailleurs? Un bon personnage, ce serait quoi?
On a des bons personnages dans Les Serpents sont-ils nécessaires, mais les hommes politiques, les politiciens sont spécialement intéressants parce qu'ils doivent créer une image publique d'honnêteté, d'intégrité. Et sous ce vernis, il y a des mensonges et des tromperies que le personnage féminin tente de démontrer, de prouver, et qui mène à sa propre destruction.
C'était un scénario, ce livre. À quel moment est-ce qu'il devient un livre et pourquoi?
Non,
ça vient de tas d'idées. Parce que moi, je note des idées tout le temps. Parfois, je développe en scénario des scénarios que je ne réalise jamais en film parce que le temps n'y est plus. Et j'ai tout un paquet d'idées de la sorte. Et en collaborant avec Suzanne Lehmann, on a pu créer un roman en réunissant un certain nombre d'idées pour des films que j'ai jamais réalisés.
Et vous êtes aussi à l'aise avec les mots et les images?
Non.
Pas aussi à l'aise qu'avec les images.
Cela dit, on trouve dans ce livre des rebondissements de l'action, des changements de décor, tout est très concis, très dépouillé, tout va très vite. Et j'ai l'impression que ce que vous nous dites, au fond, Brian De Palma, c'est que dans une œuvre de fiction, quelle qu'elle soit, ce qui compte, c'est d'abord le récit.
L'histoire, il faut qu'elle fonctionne. Mais il faut faire attention aussi aux personnages. Il faut être impliqué émotionnellement. Sinon, qu'est-ce qui ferait que vous continuez la lecture? Et bon, on sort quelques lapins du chapeau pour que le public continue de s'intéresser à l'histoire. Il y a quelques surprises qui garde l'attention du public éveillé.
On va reparler d'histoire, d'images, de littérature et de cinéma juste après un petit Bruce Springsteen, tiens, dont vous réalisiez le clip de Dancing in the Dark en 1984. Vous êtes sur France Inter avec Brian De Palma. Rien que ça, vous écoutez Boomerang.
Tired. Man, I'm just tired and getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Kiss the wine and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Vous connaissez la chanson Where is Brian? Brian is in the kitchen. Bah, détrompez-vous, il n'est pas dans la cuisine. Il n'est pas non plus en train de danser dans l'obscurité sur la musique du boss. Non, il est là, en face de moi, le cheveu, la mèche et la barbe blanche, l'œil bleu et pétillant comme un vif d'or, l'oreille ronde et offerte au monde, avec sa veste beige et son t-shirt noir, le réalisateur et écrivain Brian De Palma, invité de Boomerang ce matin pour ce livre « Les serpents sont-ils nécessaires ?» Une histoire où tous les personnages gravitent autour d'un sénateur peu fréquentable en campagne pour sa réélection. Et parmi ceux qui vont indirectement croiser sa route, il y en a un qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui du photographe, écrivain, à travers lequel vous posez la question de l'absence d'inspiration, de la page blanche. La page blanche, c'est une angoisse pour vous ?
Blank page ? Non.
La page blanche ? Mais non.
Mais ça vous arrive d'avoir des pannes d'inspiration, quand même ?
No, I have a million ideas.
Non, j'ai des millions d'idées.
That's never been a problem.
Ça n'a jamais été un problème pour moi.
I don't sit there and have writer's block.
Non, j'ai pas le blocage de la page blanche. Non. J'ai trop d'idées et pas suffisamment d'occasions pour pouvoir les faire advenir.
Et comment est-ce que vous savez que vous tenez un sujet et que c'est sur ce sujet et pas un autre que vous écrirez ?
You don't really think about that.
On n'y pense pas en fait.
Inspire you.
Il faut penser aux choses qui vous inspirent et vous espérez tout simplement que votre public va vous suivre. Mais souvent, ils ne vous suivent pas et on crée une œuvre. Ça peut être Scarface ou Phantom of Paradise, un film qui n'a pas eu beaucoup de public, sauf les Français.
Dans votre livre, le film qui se tourne en France, c'est un remake de Vertigo, de Sueur froide. Vous le tourneriez, vous, ce remake ?
J'ai toujours été fasciné par Sueur froide et le fait que ça vienne d'un roman français. J'ai pensé que ça serait drôle de le mettre dans ce livre parce que l'idée d'un remake à la française de Sueur froide, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un remake français de Sueur froide ? Et ça m'a donné l'occasion de revoir et de relire Vertigo, de relire Sueur froide.
Madeline.
Quand vous pensez à Sueur froide d'Alfred Hitchcock, quelles images, quels plans vous viennent immédiatement à l'esprit ?
Well, Vertigo is, you know, imprinted in my consciousness from the first time I saw it in 1958.
Sueur froide, je l'ai imprimé dans mes mémoires depuis 58. Kim Novak, qui monte dans la tour et se jette de la tour. À la fin, c'était un plan que j'oublierai jamais. On l'a recréé dans notre livre, cette scène, cette séquence. Quand ils font le remake français, ici, à la Tour Eiffel. Et nous avons un personnage extrêmement sympathique qui tombe de la Tour Eiffel.
Vous vous souvenez encore de l'émotion que vous avez ressentie quand vous l'avez vue, il y a 60 ans, dans une grande salle ?
Ah ouais, j'ai été choqué, j'étais vraiment très très troublé.
strongest image I'd ever seen.
C'est l'image la plus forte que j'ai jamais vue.
And the whole following of Kim Novak is something that that I learned from.
Et tout ce que j'ai su de Kim Novak, tout ce que j'ai appris dans Sueur Froide, c'est mettre regarder l'image reflétée dans l'œil de Jim Stewart et Kim Novak qui se promène dans San Francisco, tout ça.
Comment est-ce que vous imaginez votre vie avant votre rencontre avec Hitchcock, Brian De Palma?
Well, I was building computers.
Moi, je construisais des ordinateurs.
I went a couple of national science fairs with my computer. So
et voilà, je faisais des expériences scientifiques avec mes ordinateurs. Je suis allé à l'Université de Columbia.
Steve Jobs is where I was headed.
Et ben moi, j'allais sur... en fait, je serais devenu une sorte de Steve Jobs. C'est la direction que j'avais prise. Et puis, je me suis heurté au cinéma. Un vieux cinéma sur la 96e rue. Et mes yeux ont été dessillés par la nouvelle vague française. Et je me suis dit, oh là là, on peut sortir dans les rues et faire des films au lieu de faire ça dans le système hollywoodien des studios, prendre une caméra et aller dans les rues. Et une des premières caméras que j'ai jamais utilisées, c'était une caméra éclair. Et je filmais sur éclair, j'ai filmé mes documentaires sur éclair. Et quand je suis allé en France, je suis allé voir l'usine éclair. Et les propriétaires de l'usine ont vu l'éclair que j'avais et m'ont dit « Ah, c'est la numéro 3 !» Ils étaient tellement heureux de la revoir.
Est-ce que vous pensez qu'il reste quelque chose du chercheur que vous étiez aujourd'hui dans le cinéaste que vous êtes?
Quand je concevais des ordinateurs, il y a un processus similaire, c'est-à-dire passer de A à B, de B à C, et comment est-ce qu'on fait que les circuits se mettent en marche pour accomplir ce que vous vouliez comme résultat? Et mon premier ordinateur, j'ai pu faire des additions. C'était vraiment une grande percée.
Vous avez fait d'autres percées depuis, au cinéma.
Ouais,
avec des images vraiment incroyables et uniques qui semblent survivre au temps.
Merci infiniment, Brian De Palma, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Quel honneur. Merci aussi à votre interprète ce matin, le Tony Montanesque, Michel Zlotowski. Je rappelle que Les Serpents sont-ils nécessaires, écrit avec Susan Lehman et traduit par Jean Esch et publié aux éditions Rivage Noir. Je rappelle aussi que la Cinémathèque vous consacre une grande rétrospective jusqu'au 4 juillet à voir absolument. Mais entre-temps, sur les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Thank you very much for having me, and it's
merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est un plaisir d'être ici à Paris.
Dernier rendez-vous de nuit. Échec et mat sous la pluie. Tu prends l'avantage et tu dis que ce n'est pas sage, mais j'en ai. Laisse-moi rire, tu croirais ma voix.
Erreur 404, l'impératrice sur France Inter. Et quelle joie de retrouver Sonia De Villers, qui n'est pas une erreur 404.
Je m'attendais à ça.
J'ai essayé de faire une transition malheureuse.
À réfléchir sur erreur,
qui
pas
est un succès,
erreur.
Au contraire.
Oui, mais est-ce que succès, c'est le contraire d'erreur? Pas tout à fait.
Bonne question.
Bonne question.
On va interroger tous les deux.
Bien. Oui. À demain.
À demain.
Salut.